Voilà, je pense que nous pouvons commencer. Nous allons poursuivre donc notre étude, notre série d'études sur des sujets de la foi chrétienne en dialogue avec la religion musulmane. Et aujourd'hui, nous allons aborder donc l'un des sujets qui, paradoxalement, rapproche le plus les chrétiens, ou en tout cas la théologie chrétienne de la théologie musulmane. Et paradoxalement, c'est aussi le sujet qui sépare le plus ces deux enseignements, ces deux théologies, à savoir donc la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour introduire cette étude, j'aimerais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Philippiens, j'aimerais lire au chapitre 2, lire à partir de versets 6 à 11, où Paul décrit la venue de Jésus, Fils de Dieu, parmi nous, et bien sûr son retour vers le ciel. Il dit à partir du verset 6, « Jésus-Christ, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. » Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lors de notre débat, lundi dernier, auquel Thierry a fait allusion avec Tarek Obrou, un participant avait posé la question lors de débat en disant « Mais qu'est-ce qui vous rapproche le plus chrétien et musulman ?» Et M. Obrou a répondu sans aucune hésitation « Jésus-Christ ». Ce que j'ai confirmé dans un premier temps et avec force. Mais aussitôt, j'ai souligné avec autant de force que c'est aussi Jésus-Christ qui nous sépare le plus entre la théologie chrétienne, qui sépare le plus la théologie chrétienne de la théologie musulmane. Quelle est la différence donc de Jésus tel qu'il nous est présenté dans l'Évangile et tel qu'il nous est présenté dans le Coran ? Dans cette étude, j'aimerais vous proposer donc dans un premier temps de faire le tour de Jésus tel qu'il est présenté dans l'Évangile. Ensuite, faire le tour de Jésus tel qu'il est présenté dans le Coran, et je terminerai par souligner les différences fondamentales sur Jésus dans l'Évangile et dans le Coran. Avant de commencer, comme maintenant ça commence à devenir un peu une habitude, j'aimerais vous recommander quelques livres si vous voulez aller plus loin. D'abord, ici même, derrière même cette chaire, une série d'instituts bibliques qui est donnée par notre pasteur Thierry Huizer sur Jésus l'unique. Et vous trouverez tout cela sur le site internet. Malheureusement, ce n'est pas très visible, mais vous avez ici tous les sujets, ce qui fait le tour sur Jésus l'unique, donc, que vous pouvez trouver sur le site internet, non seulement pour écouter, mais aussi pour lire. Donc il y a vraiment des textes. Ensuite, un livre de notre frère Henri Blocher sur la doctrine de Christ, qui a été publié par Vaux-sur-Seine, Paris Défac, qui est aussi un très bon ouvrage chrétien. Bon, voilà. Un autre ouvrage écrit par un catholique, très bon, grand théologien catholique, mais qui s'intéresse à l'islamologie, en particulier à Jésus, c'est Roger Arnaldez, qui a écrit « Jésus dans la pensée musulmane », vraiment l'un des plus brillants livres et pourtant très succincts que j'ai lu sur Jésus du point de vue chrétien, de la théologie chrétienne et sur la théologie musulmane. Et puis, une très, très modeste contribution, c'est le livre que j'avais écrit sur Jésus dans le Coran et dans la Bible, que j'ai eu déjà l'occasion de vous présenter ici. C'est un petit ouvrage qui fait un peu le tour aussi de cette question. Comment Jésus est présenté dans l'Évangile ? Que dit l'Écriture au sujet de Jésus ? Le passage de Philippiens que nous avons lu présente clairement Jésus comme étant Dieu depuis toute l'éternité qui est venu parmi nous et qui continue à vivre pour toute l'éternité, et en venant parmi nous Il a pris la nature humaine qu'il gardera pour toute l'éternité. J'aurais pu lire aussi le début de l'évangile de Jean, où l'évangéliste présente, commence son évangile en disant « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et la parole a été faite chair au verset 14 de Jean 1. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père. Et au verset 17, il indique que ce Fils n'est autre que Jésus-Christ. Donc l'Évangile nous présente Jésus comme étant pleinement Dieu, qui a été auprès de Dieu depuis toute l'éternité, dès le commencement, et qui est venu parmi nous, qui a pris la forme, la nature humaine, et cela pour toute l'éternité. Il a fallu un peu de temps pour que l'Église parvienne à une présentation de Jésus avec un texte qui va rendre compte de l'ensemble des données du Nouveau Testament. En fait, c'est au concile de Chalcédoine, la Turquie d'aujourd'hui, en 450, qu'une définition de Jésus, de l'Évangile, a été donnée, acceptée par l'ensemble des chrétiens qui se veulent ou qui veulent rester fidèles aux données du Nouveau Testament. Bien sûr, ils se sont servis des données qui existent dans le Nouveau Testament pour faire cette déclaration. Mais cette déclaration fait vraiment foi. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous la fournir si vous le souhaitez. Dans cette définition, cette déclaration concernant Jésus, cette déclaration permet de rendre compte en fait des données du Nouveau Testament sur la personne de Jésus-Christ, en particulier sur trois points. Le premier sur le fait que Jésus-Christ est pleinement homme, c'est ce que je vais essayer de dire. Deuxième chose, que Jésus-Christ est pleinement Dieu, n'est pas un sous-Dieu, mais totalement pleinement Dieu. Et le troisième point, le fait que Jésus-Christ est une seule personne, donc deux natures, mais une seule personne. Jésus-Christ pleinement homme. Par l'incarnation, en effet, Jésus devient homme et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous indique que Jésus a partagé notre humanité comme tous les enfants. C'est Hébreux 2, verset 14. Il est semblable à nous en toutes choses, sauf en ce qui concerne le péché, c'est Hébreux 4 aussi. La naissance de Jésus est une naissance qui ressemble à tout enfant qui vient au monde. Ce qui a été miraculeux, c'était sa conception et non pas sa naissance. Sa naissance a été tout à fait naturelle, comme tous les enfants. Jésus est né comme tous les enfants, tous les bébés humains, et il est né de la Vierge Marie. Il n'est pas tombé du ciel, mais il a choisi de venir comme tout être enfant, comme le précise d'ailleurs l'évangile de Matthieu. Et c'est ainsi qu'il s'est inscrit dans la lignée d'Abraham, de David. Et c'est comme cela que le Nouveau Testament commence en disant Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Matthieu chapitre 1, premier verset. Jésus a connu le développement naturel comme tout autre être humain, comme tous les enfants. Jésus a dû apprendre pour savoir et au fur et à mesure qu'il s'avançait en âge, il se rendait de plus en plus agréable aux hommes comme à Dieu, sans que cela implique la moindre erreur de sa part ou imperfection. Jésus a été soumis aux mêmes lois de croissance comme n'importe quel être humain. Il a été soumis aux mêmes lois d'apprentissage comme n'importe quel enfant. Et l'évangile de Luc le souligne parfaitement en disant « Jésus grandissait, progressait en sagesse, il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. » Chapitre 2, verset 53. Jésus a connu aussi les limites humaines, comme la faim, la soif, la fatigue, le sommeil, et ainsi de suite. Et sur le plan spirituel, il a été tenté, comme nous tous, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais sans commettre de péché. Il a été tenté comme n'importe quel d'entre nous également. Comme nous, Jésus a eu besoin d'entretenir sa relation avec le Père régulièrement et ne pas laisser les besoins, et pourtant c'est nombreux, c'est intense, c'est immense par moments, le priver de sa relation avec le Seigneur, mais l'Évangile nous dit régulièrement qu'il prenait du temps dans la prière, qu'il s'isolait dans la prière pour prier, pour intercéder et pour entretenir sa relation avec le Père. Face à cette preuve, Jésus a dû mobiliser toutes ses ressources aussi, les ressources intérieures, pour faire appel à toute son énergie pour faire appel à toutes les ressources que le Seigneur met à sa disposition pour faire face à l'exigence de l'épreuve. Il n'a pas survolé les épreuves comme un surhomme, d'une manière surnaturelle, mais bien au contraire, il les a assumées, il a assumé la peine, il a assumé la douleur, tout comme nous aussi lorsque nous faisons face à l'épreuve. Jésus n'a pas reculé devant la mort de la croix, nous venons de le rappeler, de le chanter. Il a été jusqu'au bout, il a vécu la souffrance de la passion, tout comme celle de la mort elle-même. Il a souffert tout cela dans sa chair. Jésus donc, par la suite aussi dans sa chair, enfin avec un corps nouveau, est ressuscité après sa crucifixion. Le troisième jour est ressuscité avec un corps nouveau, avec un corps glorifié. Et c'est avec ce corps glorifié que Jésus est monté au ciel, avec lequel il reviendra pour nous conduire dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, pour toute l'éternité. De cette manière, la nature humaine de Jésus existera désormais pour toute l'éternité. Les données donc du Nouveau Testament montrent bien et clairement que Jésus est pleinement homme comme chacun d'entre nous depuis l'incarnation, et ce sera pour toute l'éternité à venir. À côté de l'affirmation de la nature humaine de Jésus, le Nouveau Testament affirme aussi avec autant de force la nature divine de Jésus, et ce dès le début. Dès les premières pages du Nouveau Testament, Jésus s'est présenté comme étant Dieu parmi nous. Je reviens toujours à l'évangile de Matthieu qui commence par nous présenter Jésus en disant « Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous », chapitre 1, verset 3. La première chose qu'on rencontre en lisant le Nouveau Testament, dès le premier chapitre, on rencontre au verset 1 la nature humaine de Jésus et au verset 23 la nature divine de Jésus. La divinité de Jésus est affirmé à maintes reprises et de bien des manières dans le Nouveau Testament. D'abord, le Nouveau Testament présente Jésus comme étant préexistant. Depuis toute l'éternité, toujours, il a toujours existé. Il n'y avait pas un instant T où Jésus est venu à l'existence, mais il a toujours existé depuis l'éternité passée. Ça a toujours été ainsi. Il a toujours existé autant que Fils de Dieu. Comme déjà souligné Jean dans son évangile, nous présente Jésus comme le Logos, la parole de Dieu, cette parole qui était dès le commencement et qui est venue parmi nous en la personne de Jésus-Christ. Ensuite, Jésus porte des noms divins dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire des noms qui sont réservés exclusivement à Dieu, comme par exemple le nom de Dieu lui-même, le premier nom, je mentionnerai quelques-uns, le premier que je mentionnerai, c'est le fait que Jésus porte le nom de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 1, il est question de Dieu. Et au verset 18, il est question de Dieu seul unique. Vous savez, certaines traductions traduisent Dieu le Fils unique. Mais il faut savoir que le Fils n'y est pas dans l'original. Il parle de Dieu unique en parlant de Jésus-Christ. Dans sa première épître, Jean d'ailleurs redit exactement la même chose. Au chapitre 5, verset 20, il dit « Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. » Il poursuit « C'est lui qui est le Dieu véritable. » C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux applique aussi le titre de Dieu à Jésus en soulignant sa supériorité par rapport aux anges. Il dit « Donc le Seigneur dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. » Jésus est appelé Dieu. C'est une citation de Psaume 45, versets 7 et 8, mais une citation qui est appliquée à Jésus, dont le titre, ô Dieu, est appliqué à Jésus-Christ. Les musulmans disent souvent que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu dans l'Évangile. Certes, on ne trouve pas d'expression où Jésus dans l'Évangile dit « je suis Dieu ». Ça ne se trouve jamais dans la bouche de Jésus, je ne parle pas des épîtres. Certes, ça ne se trouve pas, mais cela ne veut pas dire que Jésus ne se présente pas comme Dieu. Ce n'est pas parce que Thierry ce matin ne nous a pas dit qu'il n'a pas dit que je ne suis pas pasteur, qu'il n'est pas pasteur de l'Église. C'est présenté comme pasteur de l'Église. Jésus, ce n'est pas parce qu'il a dit dans l'Évangile « je ne suis pas Dieu » qu'il n'est pas Dieu. Et d'ailleurs, Lorsque Thomas dit à Jésus, fait cette belle confession, « Mon Seigneur et mon Dieu » dans Jean 20, verset 28, Jésus ne lui a pas répondu en disant « Mais écoute Thomas, tu t'es trompé ». Il ne lui a pas dit « Arrière de moi Satan », comme il avait dit d'ailleurs à Pierre, lorsque Pierre a fait une confession qui n'était pas inspirée de Dieu. Mais au contraire, Jésus lui a dit « Heureux les gens, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». En d'autres termes, heureux ceux qui vont arriver aux mêmes conclusions que toi, sans m'avoir vu. Heureux donc ceux qui vont arriver à la conclusion que je suis vraiment Dieu. Jésus s'attend à ce que ses disciples voient en lui, entre autres, Dieu lui-même. Il y a bien entendu d'autres textes dans le Nouveau Testament où Jésus est présenté comme Dieu. Par exemple, dans Actes 20, verset 28, où il est question de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Certes, le nom de Dieu souvent est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du Père, mais ici, il est utilisé pour parler de Jésus-Christ, parce que ce n'est pas le Père qui a donné son sang pour l'Église, mais c'est Jésus-Christ, comme nous venons de le célébrer et de le rappeler. L'apôtre Paul déclare que Jésus-Christ est issu dans son humanité des patriarches, c'est-à-dire les pères, Abraham, Isaac et Jacob, etc. Et il précise, il poursuit en disant, il est aussi au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. C'est Romains chapitre 9, verset 5. Toujours sous la plume de l'apôtre Paul, mais qui est reprise aussi par l'apôtre Pierre, il dit, il appelle Jésus-Christ notre grand Dieu et sauveur. Or, qui est notre sauveur? Sinon Jésus-Christ. C'est l'épître de Tite, chapitre 2, verset 13. L'examen des données du Nouveau Testament ne laisse aucun doute sur la question, sur la divinité de Jésus-Christ. Jésus est appelé Dieu à bien des reprises, et cela non seulement dans les épîtres, mais aussi dans les évangiles, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, même si Jésus n'emploie pas cette expression explicitement, on ne retrouve pas cette expression en tout cas explicitement sur sa bouche. Jésus emploie un autre nom pour dire qu'il est qu'il est Dieu d'une manière explicite. C'est le nom de Je suis. Dans l'évangile de Jean, Jésus emploie à plusieurs reprises le nom de Je suis, notamment avec un compliment. Il dit Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, etc. Et au chapitre 8, verset 58, Jésus déclare clairement en disant « Vraiment, je vous l'assure, avant qu'Abraham fût ou vienne à l'existence, moi, je suis. » Le nom de « je suis » en grec, c'est « ego emi » renvoie ici au nom qui a été donné par Dieu à Moïse, lorsque Moïse lui dit « Mais Seigneur, je veux bien aller voir ton peuple, leur demander de sortir des pays d'Égypte pour venir t'adorer, mais s'ils me demandent quel est ton nom, que dire ?» Et là, le Seigneur lui dit « Ben, tu leur dis, je suis. » Enfin, la forme verbale, c'est « je suis qui je suis » ou qu'on peut traduire « je serai qui je serai ». C'est une forme verbale qui va donner le nom de Yahvé, le tétragramme, le nom de Yahvé qu'on traduit toujours en français par l'Éternel ou par le Seigneur. Dans Deutéronome, au chapitre 32, verset 39, le Seigneur se présente en disant « Reconnaissez-le, c'est moi qui suis ». Il reprend donc la même forme « c'est moi qui suis ». C'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui fais mourir, c'est moi seul qui fais vivre, c'est moi qui est blessé et c'est moi aussi qui guéris. De ma main, nul ne peut délivrer. Donc, dans ce passage, Dieu, dans l'Ancien Testament, Deutéronome, reprend l'expression « moi, je suis » et il dit « c'est moi Dieu, il n'y en a pas d'autre ». L'expression donc « moi qui suis » revient 5 fois dans ce passage et elle est traduite dans la traduction grecque, c'est ce qu'on appelle la Septante de l'Ancien Testament, avec la même expression que Jésus va employer lorsqu'il va parler avec les Juifs pour dire qu'il est ce « je suis » de l'Ancien Testament. Et en prenant ce nom, Jésus ne laisse aucune ambiguïté sur la question de sa divinité. En d'autres termes, il se présente comme le Dieu de l'Ancien Testament qui se présente en chair et en os devant ses auditeurs. Un autre nom aussi qui est employé, il y en a bien d'autres noms qui sont employés pour souligner la divinité de Jésus, c'est le titre, le nom de Seigneur, le nom Adonai, qui est employé systématiquement pour Dieu. C'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi comme un titre, comme pour dire Monsieur, mais généralement c'est employé vraiment pour dire Dieu. Et là, il était appliqué à Jésus. Encore dans certaines déclarations de l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le vivant, je suis celui qui était, qui vient, qui est et qui vient, etc. En plus des noms, Jésus porte aussi les attributs divins, les attributs qui sont utilisés pour qualifier Jésus. Et il y en a plusieurs, comme par exemple l'omniprésent, c'est-à-dire Jésus présent partout. C'est à la fin de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus dit « Je suis avec vous ». Là où je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, encore là où deux ou trois sont assemblés au mon nom, je suis parmi eux. Donc ça dit l'omniprésence, ça dit la présence de Jésus partout. La toute-puissance, toujours dans Matthieu 28, il dit tout pouvoir m'a été donné. Encore l'omniscience de Jésus. Jésus accomplit aussi des œuvres divines dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire des œuvres que seul Dieu peut accomplir. C'est ainsi qu'il a participé à la création. C'est Jean 1, Colossiens 1, Hébreux 1 nous disent très clairement que Jésus a participé à la création du monde, à notre création. Or, qui est le Créateur, sinon Dieu lui-même? Jésus se présente comme étant capable de pardonner le péché. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu lui-même? Il reçoit l'adoration des anges, Hébreux 1. Qui peut recevoir l'adoration, sinon Dieu lui-même, dans la perspective chrétienne? Donc, toutes ces affirmations du Nouveau Testament montrent bien que Jésus est plus qu'un homme, il est plus qu'un prophète, il est celui en qui, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus pleinement Dieu, Jésus aussi pleinement homme, il possède les deux natures pleinement. Bien qu'il possède ces deux natures, Jésus reste une seule personne. Une seule personne. Lorsque Jésus parle de lui, il ne dit pas « nous ». Il dit « je ». Il emploie le premier pronom de singulier « je ». Il est une personne qui possède ces deux natures sans mélange. Et ces deux natures donc ne se confondent pas en lui. Mais il est une seule personne et il est important qu'il soit une seule personne, qu'il soit pleinement Dieu pour accomplir sa mission et pleinement homme pour accomplir sa mission de sauveur, pour pouvoir nous sauver. Ce n'est pas certes facile de concilier le fait que Jésus soit pleinement homme, pleinement Dieu et nous avons affaire à une seule personne, c'est relativement complexe. Mais si nous devons respecter les données du Nouveau Testament, nous ne pouvons qu'arriver à cette conclusion. Nous pouvons arriver qu'à cette conclusion, et ce n'est pas parce que c'est complexe ou c'est difficile à la raison humaine que nous devons rejeter ou faire des concessions. C'est la raison pour laquelle, dans l'histoire de l'Église, tout au début, il y a eu beaucoup d'hérésies qui essayaient d'arranger un petit peu sur la question de Jésus. Certains ont dit, en fait, finalement, Jésus a deux natures, c'est vrai, mais aussi deux personnes. D'autres ont dit, non, on ne va pas compliquer les choses, on va essayer de dire, il n'y a qu'une seule nature, la nature humaine est absorbée un peu dans la nature divine, où ça a fait un mélange. Mais toutes ces hérésies ont été condamnées, et au concile de Chalcédoine en 451, on arrive avec une définition qui garde toutes les données du Nouveau Testament d'une manière vraiment harmonieuse et qui se résume à la vision du Nouveau Testament sur Jésus, à savoir pleinement homme, pleinement Dieu, ces deux natures, et nous avons affaire à une seule personne. Que dit maintenant le Coran sur Jésus? L'un des textes consacrés à Jésus dans la christologie musulmane, c'est la sourate 3, la famille d'Imran. Donc, cette sourate traite de la christologie musulmane. Il y a 35 versets qui sont réservés à Jésus, qui sont consacrés à la vision coranique de Jésus et de sa mère Marie. Si l'évangile présente Jésus systématiquement comme fils de Dieu, c'est un autre nom que je n'ai pas utilisé, vous remarquerez que je suis passé très rapidement sur la présentation de Jésus dans le Nouveau Testament, parce que je considère que si vous voulez aller plus loin, il y a l'Institut biblique de Thierry, donc toute la série d'instituts bibliques que vous pouvez regarder dans un premier temps, et si vous êtes intéressé par l'ouvrage de M. Blocher, vous pouvez aussi vous le procurer. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore évoqué le Fils de Dieu, etc. Donc, si l'Évangile ne présente Jésus comme étant Fils de Dieu, il faut savoir que le Coran présente Jésus comme Fils de Marie. Aïssa ibn Maryam. Donc, Jésus, Fils de Marie. Les versets 42 à 47 de la sourate Al-Imran, Al-Imran rapportent justement un dialogue entre l'ange de Dieu ou l'ange d'Allah et Marie sur la conception de Jésus. Et au verset 45 de ce passage, il est question de Jésus, fils de Marie. Dans le Coran, la tradition de l'Arabie au temps au 7e siècle, parce qu'il est question du 7e siècle, là on est au temps de Mohammed, de Mohammed. Donc, au 7e siècle, lorsqu'on présente les enfants, on les présente systématiquement par le nom de leur père et non pas par le nom de leur mère. Or, Jésus ici est présenté par le nom de sa mère. Vous savez que Mohammed est appelé Mohammed Ibn Abdullah, je le dis en arabe, donc c'est Mohammed, fils de Abdullah. Le nom de son père s'appelle Abdullah, il dit fils de Abdullah. Donc lui-même, on ne l'a pas présenté par le nom de sa mère qui s'appelait Amina, mais par le nom de son père. Or Jésus, on ne le présente jamais par le nom de son père, systématiquement par le nom de sa mère. Et l'une des raisons pour laquelle on le présente systématiquement au nom de sa mère, c'est parce que le Coran reconnaît que Jésus n'est pas conçu par un père, il n'a pas de père naturel. Il est conçu par le Saint-Esprit. Et là, c'est un autre texte, c'est une autre sourate qui le confirme et qui le dit d'une manière encore plus développée. C'est la sourate 19, qui dit très clairement, qui reprend la plupart des éléments qu'on trouve dans Luc au chapitre 1, le dialogue entre l'ange Gabriel et Marie, est repris dans cette sourate 19. En plus donc de la conception miraculeuse qui est acceptée par le Coran, Jésus, selon le Coran, est né sans péché. Il est né pur, comme sa mère d'ailleurs est née pure. Donc tous les deux, Jésus et sa mère, sont préservés du démon maudit que rencontre tout enfant à sa naissance. Là, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais c'est facile. Dans notre conception chrétienne, l'être humain est touché par le péché dès sa conception. Vous savez que David dit au psaume 51, « J'étais conçu dans le péché ». Donc, dès la conception, nous sommes touchés par le péché parce que, par nature, nous avons hérité cela de notre représentant, de notre nature adamique. Dans la conception musulmane, l'être humain n'est pas touché par le péché à sa conception, mais à sa naissance. On considère que tous les êtres humains à la naissance sont touchés par le démon maudit qui rend l'être humain pécheur, excepté Jésus et Marie ou encore Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, on le retrouve par un hadith, c'est-à-dire la tradition, qui est très très fort et qui a été rapporté par Al-Bukhari. Al-Bukhari, c'est quelqu'un qui a fait les recueils des hadiths qui font autorité. Et où il dit très clairement, j'ai entendu l'envoyé de Dieu dire, aucun descendant d'Adam ne naît sans que Satan ne le touche au moment de sa naissance, en sorte que le premier cri qu'il fait entendre est un cri sous le toucher de Satan. Sauf Marie et son fils font exception à cette règle. Donc, à cette exception, il faut rajouter aussi, Jean-Baptiste, qui est aussi mentionné comme n'ayant pas été touché par se toucher de Satan. Donc, dans toute l'histoire de l'humanité, y compris les prophètes, sont touchés par le toucher de Satan. Tous les prophètes, y compris d'ailleurs Mohammed, selon le Coran, ont demandé pardon à Dieu, ou bien Dieu leur a annoncé son pardon, sauf Jésus-Christ, qui est né pur et qui demeurera pur tout au long de sa vie, parce qu'il a voulu faire de lui, Dieu a voulu faire de lui un signe. En plus de naître pur, d'après le Coran, donc, Jésus a parlé dès son berceau pour deux raisons. D'une part, pour justifier Marie face aux accusations des Juifs qui lui disaient « Mais pourquoi tu as fait une chose si atroce ?» C'est-à-dire, tu es devenue enceinte alors que tu n'es pas encore mariée. Et là, d'après la tradition musulmane, Jésus a parlé déjà dans le berceau en lui disant, mais non, je suis l'envoyé de Dieu et je ne suis pas le fruit de la relation de Marie avec son fiancé, c'est-à-dire avec Joseph. D'autre part, c'est pour aussi montrer que Jésus vient vraiment de Dieu, d'Allah. Donc c'est la raison pour laquelle il a parlé dès son berceau. Vous savez, je le mentionne parce que c'est l'une des choses qui revient souvent dans la discussion avec les musulmans. Enfant, il a été doté déjà des facultés extraordinaires, comme par exemple des pouvoirs surnaturels. Et grâce à ces pouvoirs, par exemple, on dit qu'il a réussi à faire un oiseau d'argile qui, après, il a soufflé sur ce oiseau, qui a pris vie et puis il s'est envolé. C'est dans le Coran 3, par exemple, verset 43. Il faut savoir que là, il y a une allusion, le Coran reprend une scène qu'on trouve dans les évangiles apocryphes. Quand on parle des évangiles apocryphes, c'est-à-dire des évangiles qui sont écrits bien plus tard qu'au 1er siècle et qui racontent plein de choses, des scènes de Jésus lorsqu'il était petit, il jouait avec ses copains et il leur mettait un peu plein la vue, d'après ces écrits-là. Et notamment que le pseudo Matthieu racontait un peu ce genre d'histoire. Et probablement Mohammed était en contact avec ses écrits et il a repris ses écrits pensant vraiment que c'est des évangiles canoniques, mais qui ne le sont pas. Donc, il dit que Jésus a des pouvoirs surnaturels et l'autre chose aussi qui est dite sur Jésus, il a un savoir immense qu'il a reçu directement de Dieu qui lui a enseigné la sagesse, la Torah et l'évangile, et ce, dès son enfance. Alors que dans l'évangile de Luc que j'ai cité juste tout à l'heure, Jésus est soumis aux mêmes exigences de croissance et d'apprentissage. Il apprenait au fur et à mesure. Et là, dans la conception musulmane, Jésus a tout reçu, il reçoit directement tout de Dieu. Il laisse entendre que sans avoir à travailler les textes de la Torah. Alors que dans l'évangile, au contraire, il nous laisse entendre que Jésus méditait les textes de la Torah et c'est ainsi qu'il a appris en grandissant les textes de la Torah. Ces facultés surnaturelles n'ont fait que s'accroître durant sa vie et en particulier pendant son ministère. Le Jésus coranique a accompli beaucoup de miracles, des guérisons, des résurrections et même il a fait descendre une table du ciel pour nourrir ses apôtres. À vrai dire, c'est une allusion à la Sainte Cène, c'est une allusion au repas pascal dont il est question ici. Les commentateurs musulmans s'accordent à dire Jésus a accompli l'ensemble de ce que tous les autres prophètes ont accompli. C'est-à-dire prendre les autres prophètes individuellement, les rassembler, tout ce qu'ils ont fait correspondrait à ce que Jésus a accompli à lui seul et pendant une période si courte de son ministère. En plus de bénéficier d'une grâce particulière pour accomplir tous ces miracles, Jésus, considéré le béni, appelé le béni, est soutenu par le Saint-Esprit et porté par l'Esprit de sainteté, d'après toujours le Coran. Le fait d'être porté par l'Esprit de sainteté, d'être soutenu, l'expression utilisée, c'est vraiment soutenu par l'Esprit Saint. C'est l'expression que Thierry tout à l'heure avait prononcée. C'est exactement cette même expression qui est reprise dans le Coran 2, verset 87 par exemple, verset 253, encore chapitre 5, verset 110. Le fait d'être soutenu par l'Esprit de sainteté permet d'une part avoir accès direct à la science divine, une science inexprimable selon le grand théologien musulman, je dirais simplement son dernier mot, Al-Sulami. Je suis désolé, parfois je prononce les choses un petit peu à l'arabe et donc ne vous perdez pas lorsque j'essaie de dire soit le nom avant ou après en français. Mais bon, voilà. Donc, le fait d'être soutenu par le Saint-Esprit ou l'Esprit de sainteté, cela permet à Jésus d'avoir accès à la science inexprimable de Dieu. Et d'autre part, cela l'a protégé de ne pas transgresser la loi de Dieu. Parce que si Marie n'a pas été touchée par le toucher de Satan comme Jean-Baptiste, la tradition musulmane considère que par la suite, aussi bien Marie que Jean-Baptiste ont péché et que seul Jésus est resté jusqu'au bout sans avoir commis de péché. Et l'une des explications qu'ils annoncent, c'est le fait qu'il a été porté par le Saint-Esprit. Donc malgré tout cela, selon toujours le Coran, la prédication de Jésus reste un échec parce que les Juifs n'ont pas écouté, les Juifs ne l'ont pas suivi, mais sauf les apôtres, les disciples. Et c'est la raison pour laquelle, d'après le Coran, Jésus s'est consacré pleinement à enseigner uniquement ses apôtres et donc ne pas tenir compte de l'ensemble du peuple juif pour lequel il a été envoyé. Les versets 52 et 58 à 58 de la sourate 3 que j'avais évoquée décrivent la fin terrestre de Jésus, et verset 55 de ce passage parle de l'élévation de Jésus auprès de Dieu pour le sauver de ceux qui ont voulu le crucifier, de ceux qui voulaient le tuer. En d'autres termes, pour le Coran, la vie terrestre de Jésus a pris fin par cette élévation auprès de Dieu. Jésus n'a pas donc connu la crucifixion et la résurrection. La crucifixion et la résurrection, c'est fondamental pour la foi chrétienne. D'après le Coran, Jésus n'est pas mort à la croix, et les récits qui rapportent la crucifixion de Jésus, très nombreux, parfois même toute une partie de l'évangile qui est réservée à cela, ne sont que le fruit d'une illusion, d'après la théologie musulmane. Car en effet, et là c'est la sourate 4 qui précise les choses, les versets 156 à 159, disent que, explicitement, que Dieu a mis en échec le projet des Juifs qui voulaient tuer Jésus, son serviteur, à la croix. Pour les théologiens musulmans, Dieu prend les infidèles à leur ruse. Et Dieu est plus grand ruseur, c'est comme ça qu'il est appelé, c'est dans le Coran 3, versets 54 et 55. Selon l'interprétation traditionnelle musulmane, Dieu a fait croire aux Juifs qu'ils étaient en train de tuer Jésus, mais à vrai dire, ce n'était pas du tout Jésus qu'ils étaient en train d'exécuter. Le Coran n'est pas clair sur la manière dont Dieu finalement a libéré Jésus entre les mains de ceux qui voulaient le crucifier, mais il y a néanmoins trois pistes qui sont avancées. D'abord, Dieu aurait livré un sosie de Jésus qui a été crucifié à la place de Jésus, et les Juifs pensaient qu'ils étaient en train de crucifier Jésus, mais à vrai dire ce n'était pas Jésus, c'est un sosie. À un moment donné, donc il y a eu une transformation sans que personne ne se rende compte. C'est la première piste qui a été avancée. La deuxième piste, c'est une illusion. Dieu aurait envoyé une illusion communautaire. Tout le monde était dans une illusion, mais la réalité est tout autre. La réalité est que Jésus n'a pas été jusqu'à la croix, mais ils étaient tous ceux qui étaient là étaient entrés dans une illusion communautaire. C'est le Coran 4, verset 158, qui renvoie au Coran 5, verset 117. Encore une dernière piste qui a été avancée est le fait que Jésus soit remplacé par l'un de ses disciples. Et parmi les noms qui sont avancés, il y a souvent le nom de Judas ou le nom de Pierre. Ça pose problème parce qu'on sait Judas comment il a fini, on sait Pierre comment il a fini. Donc on sait qu'ils ont une existence après la crucifixion de Jésus. Mais néanmoins, la tradition musulmane avance ces deux noms. Le refus de la mort de Jésus par le Coran est fondée sur une conviction théologique très forte selon laquelle Dieu accorde toujours sa victoire ou la victoire au vainqueur, à ses prophètes, à ses serviteurs, à ceux qui cherchent à faire triompher la cause de Dieu, notamment les prophètes et ses envoyés. Pour le Coran, Dieu fait triompher ceux qui cherchent à faire triompher la cause de Dieu. C'est le cas de Noé qui n'a échappé au jugement de son peuple, c'est le cas d'Abraham, c'est le cas de Lot, c'est le cas de Jonas, c'est le cas de tous ces prophètes qui ont échappé au conseil de leur peuple, qui ont décidé à un moment ou à un autre de les condamner, mais Dieu les a fait échapper, donc Dieu leur a donné la victoire. Et de ce fait, dans l'islam, il est impossible que Jésus succombe au jugement de son peuple, c'est-à-dire impossible que Jésus soit à la crucifixion, meure à la crucifixion. Donc vous voyez, ce qui est derrière le rejet de la crucifixion, c'est vraiment toute une théologie qui pourrait être noble, parce qu'il considérait que c'est une défaite. Sauf que le Nouveau Testament ne présente la crucifixion non pas comme une défaite, mais une victoire. Et l'apôtre Paul dit, c'est à la croix que Jésus a triomphé des forces du mal, il les a livrées publiquement, etc. Jésus, donc fils de Marie, est présenté dans le Coran et dans la tradition musulmane comme étant conçu par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, comme étant né pur et accomplissant des miracles que tous les autres prophètes réunis ont accomplis, enlevé au ciel, et puis il reviendra à la fin des temps. Dans la théologie musulmane, Jésus reviendra à la fin des temps avec le 12e imam, donc il y aura aussi un autre imam, un autre personnage, et lors de ce retour, ce sera la fin, mais Jésus prêchera à ce moment-là qu'il faut revenir, il prêchera l'intérêt de l'islam, il faut se convertir à l'islam, il dira aux chrétiens qu'il faut se tourner vers l'islam. Tout cela, donc, c'est Jésus tel qu'il est présenté dans le Coran. Maintenant, quelle est la différence fondamentale entre le Jésus dans l'Évangile et le Jésus dans le Coran? Pour l'islam, Jésus restera toujours une créature de Dieu, bien qu'il soit un être unique depuis sa conception jusqu'à son dernier jour terrestre et qu'il reviendra. Il restera un être unique. D'ailleurs, il le qualifie avec des titres bien spécifiques sur lesquels je reviendrai sur un tout à l'heure. Malgré donc la place extraordinaire accordée à Jésus par le Coran, Jésus restera toujours un homme et uniquement un homme. Quant à l'Évangile, Jésus, certes, est pleinement homme, il n'y a aucun doute à cet égard, mais il est aussi pleinement Dieu. Jésus est pleinement homme pour nous représenter devant Dieu, parce que je parlais de salut tout à l'heure. Pour accomplir sa mission, Jésus dit « Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour le salut d'un grand nombre de personnes. » Pour sauver l'être humain, et il faut prendre la place de l'être humain, il faut être un homme, il faut être pleinement un homme. Jésus est pleinement un homme pour prendre notre place, pour nous représenter devant Dieu de la même manière que Adam nous représente lorsqu'on reste pécheur, on rejette Jésus-Christ, on reste sous la représentativité d'Adam. Nous avons besoin d'un homme, pleinement homme, qui va nous représenter. Et à la croix, Jésus nous représente devant Dieu, prend notre place, il meurt pour nos péchés, il meurt pour nous, à notre place, pour nous sauver. Mais en même temps, Jésus est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu pour payer le prix de notre désobéissance, parce que le salaire de péché ne peut pas être payé par un être humain. C'est un salaire tellement élevé, c'est un prix tellement élevé qu'il exige le sang d'un innocent, c'est-à-dire un innocent. Aucun être humain dans la perspective biblique ne peut être innocent, même les petits-enfants. D'ailleurs, souvent on dit les enfants sont innocents, etc. Il faut ne pas connaître les enfants pour dire que les enfants sont vraiment innocents. Donc, inutile de parler après quand ils seront grands, hein, quand ils deviendront comme vous et moi. Donc, la Bible, seule qui a le sang d'innocent, c'est bien entendu Jésus-Christ, qui n'a pas marqué, qui n'est pas touché par le péché. Il faut donc le prix très fort. Il ne suffit pas simplement de faire des prières ou de jeûner ou de se consacrer à Dieu, c'est très bien tout cela. Mais c'est vraiment, on est loin, loin, loin du compte. Il faut que ce soit le sang d'un innocent, le sang de Dieu lui-même. Et Jésus, c'est pour cela que Jésus est pleinement Dieu. Il faut être pleinement Dieu pour régler, si vous voulez bien, la facture, si vous voulez me pardonner cette expression, la facture de notre désobéissance. Donc il faut être pleinement homme pour nous représenter, pleinement Dieu pour payer le prix de la facture. Seul qui regroupe ces deux natures, c'est bien Jésus-Christ. Ce n'est pas le Père qui est mort à la croix pour nous. Le Père n'a pas la nature humaine, il ne peut pas nous représenter. C'est Jésus. Ce n'est pas le Saint-Esprit non plus. C'est Jésus. Il faut avoir pleinement la nature divine pour payer le prix, pour répondre à l'exigence de la sainteté, de la justice de Dieu, avoir pleinement la nature humaine pour prendre notre place. Il faut être une seule personne et pas deux. Parce qu'à partir du moment où on essaie de séparer, les deux conditions pour notre salut ne sont plus réunies. Et c'est la raison, et je pense que c'est l'une des différences fondamentales avec la conception de Jésus dans le Coran. C'est vrai, le Coran parfois même, il va plus loin, il donne une place très importante à Jésus, mais il a sous Jésus la coranique, aussi important soit-il, ne peut pas nous sauver. Parce que pour être sauvés, nous avons besoin de Dieu, et non pas d'un homme parfait, et non pas d'un homme religieux, un homme consacré. Ce n'est pas cela dont nous avons besoin. Notre désobéissance exige vraiment que la justice de Dieu exige que le prix soit très élevé, et donc le sang d'un innocent, et c'est Jésus qui a payé ce prix-là. Voilà donc pourquoi il me semble que Jésus dans l'Évangile, le seul Jésus dans l'Évangile, peut être sauvé. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul il dit si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que nous prêchons, qu'il soit un anathème. Parce que le problème, un autre évangile, ça peut faire plaisir à ceux qui nous entendent, si on diminue un peu, lorsqu'on parle avec des musulmans, si on n'évoque pas la nature divine de Jésus, ça peut faire plaisir. Mais le problème, c'est que ça ne va pas les sauver. Ce Jésus-là ne pourra pas les sauver. Le seul Jésus qui peut sauver est celui qui se présente dans l'évangile, pleinement Dieu et pleinement homme, en une seule personne. J'aimerais terminer maintenant pour nous encourager, dans le dialogue avec les musulmans. Quelque chose qui est vraiment très encourageant. Dans le Coran, avec les musulmans, dans la tradition musulmane, Jésus reçoit vraiment un statut spécifique. Le Coran donne des titres extraordinaires à Jésus, comme par exemple « parole de Dieu », comme « esprit de Dieu », « le messie de Dieu », encore « le prophète de Dieu ». Pour prophète, c'est un titre qui est employé pour plusieurs autres prophètes. Mais pour le Messie, bon, c'est employé aussi pour d'autres, mais dans deux sens différents. Soit Messie, quelqu'un qui a été oint, comme les rois de l'Ancien Testament, etc., les prophètes, soit le Messie comme nom. Et Messie comme nom, c'est donné simplement à Jésus. Ou encore, mais surtout, les deux premiers titres, parole de Dieu et esprit de Dieu. Et ces titres-là sont donnés exclusivement à Jésus. Jésus est appelé à trois reprises dans le Coran comme parole de Dieu. C'est le Coran 3, les versets 38 et 39, le Coran 3, verset 45, le Coran 4, verset 171. Ce titre de parole de Dieu dans le Coran, comme je vous disais, est utilisé exclusivement pour Jésus-Christ. Aucun prophète dont le Coran n'a bénéficié de ce privilège n'a porté le titre de parole de Dieu. Il y a plusieurs explications qui sont avancées par les exégètes musulmans pour rendre compte de cette particularité de Jésus, c'est-à-dire de cette spécificité du fait que Jésus soit appelé parole de Dieu ou encore esprit de Dieu. La première thèse consiste à dire que Jésus est appelé parole de Dieu parce qu'il est venu à l'existence par la parole de Dieu. Nous avons dit que Jésus, l'ange de Dieu a parlé donc à Marie, il lui a dit en fait en arabe c'est le verbe être, soit et il fut. Grand théologien, un théologien comme par exemple Zamkhari, Zamkhari, qui a utilisé cela pour dire que le verbe Jésus est le verbe de Dieu dans la mesure où Dieu a parlé. Et cette parole de Dieu est venue dans le ventre de Marie, a conçu Jésus. L'objection fondamentale qu'on peut opposer à cette explication est le fait que Adam est créé de la même manière. Elle est créée par la parole de Dieu. Ici, le même verset, le même verbe qui est employé, le verbe être, soit et elle fut. Et le Coran lui-même, le verset 59 de la sourate 3, fait ce parallèle entre Jésus et Adam. Je cite, il dit, pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de la poussière, puis il lui dit, soit et elle fut. Or, Adam n'a jamais été appelé parole de Dieu. Comment expliquer le fait que Jésus soit appelé parole de Dieu, mais pas Adam? Et pourtant, ils sont créés avec le même verbe, et le Coran lui-même fait le parallèle. Une deuxième explication est avancée pour justifier le titre de parole de Dieu, parce que les théologiens musulmans se sont rendus compte quand même que cette première explication bute à ses limites. Une deuxième explication est avancée, c'est le fait que Jésus soit un être pur. En effet, Jésus est né pur, comme je vous l'ai dit, et comme souligné aussi, il a été protégé. Il n'a pas commis de péché. Il est resté dans la sainteté. Ils disent parce qu'il est resté saint, c'est la raison pour laquelle on l'appelle parole de Dieu ou encore esprit de Dieu, parce qu'il est soutenu par l'esprit de sainteté ou par l'esprit de Dieu. Sauf que Marie et Jean-Baptiste sont eux aussi nés purs. Ils sont nés purs, mais ils ne portent pas parole de Dieu. C'est vrai que pour Marie, on pourrait dire, dans la logique de la théologie musulmane, une femme ne peut pas être prophète, mais Jean-Baptiste est appelé prophète, au même titre que Jésus. Mais pourquoi Jean-Baptiste n'a pas été appelé dans ce cas-là parole de Dieu? Et lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, les théologiens musulmans disent, en fait, ce n'est pas la sainteté aînée, c'est-à-dire qu'il a reçu au début, qui n'a pas été touché par le toucher de Satan, mais c'est la sainteté acquise pendant toute sa vie terrestre. Sauf que lorsqu'on regarde les fois où Jésus est appelé, les trois fois où Jésus est appelé parole de Dieu, c'est en fait au moment de la conception de Jésus, même pas la conception, c'est au moment de l'annonce, lorsque l'ange Gabriel annonce à Jésus, à Marie, qu'elle allait avoir un enfant et qu'il sera appelé parole de Dieu. Donc on ne parle pas du tout de la sainteté que Jésus aurait acquise à la fin de sa vie, ou bien la sainteté, le fait que Jésus soit protégé, gardé par l'esprit de sainteté à la fin de sa vie, mais on parle de la sainteté qui est venue à la naissance, à la conception. Or, pour cette sainteté-là, il y a Marie et Jean-Baptiste qui sont au bénéfice du même privilège. Bon, pour Marie, on peut la mettre de côté à cause du statut un peu particulier des femmes dans le Coran, mais Jean-Baptiste, pourquoi Jean-Baptiste n'a pas été appelé parole de Dieu? Il a encore, me semble, en but sur une réelle difficulté. Une dernière explication consiste à dire que Jésus connaît intimement la parole de Dieu au point qu'il est appelé lui-même parole de Dieu. Cela, c'est un grand théologien du 12e, fin de 12e et 13e siècle, qui est un certain Arazi, R-A-Z-I, qui écrit, je le cite, il dit « Jésus avait atteint dans la connaissance de la parole de Dieu le degré le plus haut, qu'il a été la cause de la pleine manifestation de la parole divine, qu'il a révélé la vérité des mystères divins. » En gros, il dit, Jésus est devenu tellement la parole de Dieu, il connaît intimement la parole de Dieu qu'il est devenu pleinement parole de Dieu lui-même. Et là encore, on pourrait formuler la même objection pour la thèse précédente. Jésus est appelé par Dieu, non pas à la fin, une fois qu'il a maîtrisé, qu'il a reçu tout ce savoir de la parole de Dieu, mais au début, avant même sa conception, qu'il a reçu ce titre. Ceci dit, cette explication peut être intéressante à mon sens. Elle peut être intéressante dans la mesure où elle le rapproche de l'explication du texte de Jean 1, le prologue de Jean, où Jésus est présenté comme parole de Dieu et puis venu sur la terre. Dans la conception musulmane, la parole de Dieu a toujours existé auprès de Dieu sous forme de feuillet. Elle est existée auprès de Dieu, et que Dieu a révélé au fur et à mesure dans l'histoire. Il a révélé la Torah, c'est-à-dire le Deutéronome à Moïse, les psaumes à David, l'évangile à Jésus et le Coran à Mohammed. Mais il faut savoir que toute cette parole-là a préexisté auprès de Dieu depuis toute l'éternité. C'est la raison pour laquelle la plupart des théologiens musulmans disent que la parole de Dieu est incréée. Donc, a toujours existé. Mais quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas simplement du Coran, de tout ce que je viens de mentionner, donc de l'Ancien, Nouveau Testament et le Coran, si vous préférez, dans la conception, bien entendu, musulmane. Donc, ils disent que cette parole de Dieu a existé auprès de Dieu depuis toute l'éternité, et que Dieu a révélé. À partir de ce moment-là, si on part de cette définition de la parole de Dieu, il me semble l'un des textes qui rend très clair cette expression « parole de Dieu, Jésus, parole de Dieu », c'est bien entendu l'évangile de Jean, qui nous dit « au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole est venue parmi nous ». Donc, il me semble, nos amis musulmans qui sont sincères dans leur démarche, dans leur recherche spirituelle, peuvent considérer avec beaucoup d'intérêt le texte de Jean 1 pour expliquer ce titre de parole de Dieu qui est donné à Jésus dans le Coran. Et je pense même, très fortement en tout cas, sans avoir de preuves à fournir, hélas, en tout cas pas pour le moment, que ce texte-là de parole de Dieu, ces déclarations de parole de Dieu, ont pour un arrière-plan, à mon sens, le prologue de Jean. Je suis persuadé que c'est une reprise, Mohammed, ou ceux auprès duquel il a repris cette expression de parole de Dieu, s'appuyait très fortement sur le texte de Jean 1 pour dire Jésus est parole de Dieu. Donc, la présentation de Jésus dans la Bible et dans le Coran permet en effet d'avoir une base considérable pour un vrai dialogue, pour un vrai cheminement, pour une réelle réflexion théologique, surtout lorsque ce cheminement est très sincère. J'aimerais nous encourager à aller aussi loin que possible dans cette direction-là, ne pas perdre notre temps avec des discussions inutiles. Je parle vraiment lorsque la recherche est très sincère et il y a une volonté d'acheminer. Néanmoins, ces lieux de rencontre ne doivent pas, à mon sens, gommer les divergences fondamentales de la christologie de Jésus dans le Coran et de Jésus dans la Bible. Il y a une réelle différence fondamentale de la christologie chrétienne et de la christologie musulmane. L'islamologue français Roger Arnaldez, que j'ai mentionné tout à l'heure, vous savez, c'est un catholique qui travaille au Vatican et qui a consacré toute sa vie à réfléchir sur les questions de l'islam, écrit « Le Jésus du Coran est un prophète de l'islam. Il n'est pas le Christ des évangiles, plus ou moins retouché. Il est entièrement musulman et parfaitement intégré dans la conception d'ensemble de l'islam, que se fait l'islam de la prophétie et des prophètes. » Donc, Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, est très absent dans le Coran. Jésus, pleinement homme, et peut-être plus, est très présent dans le Coran. D'où l'importance, il me semble, de continuer à discuter avec nos amis musulmans, pour aider, pour donner les éléments permettant de voir en plus que Jésus est pleinement homme, il est aussi pleinement Dieu. Merci pour votre attention. Je suis à votre écoute. Il nous reste un peu de temps. Si vous voulez, si vous avez quelques questions, à vrai dire, il nous reste 5 minutes. Si vous avez une ou l'autre question, je suis prêt à essayer de répondre. Oui, il y a un monsieur tout au fond. Allez-y, un frère. D'accord, donc vous me posez la question, la vérité elle est où? J'ai présenté les deux, j'ai essayé de présenter avec très honnêtement les choses sans caricature, mais vous savez, moi j'étais musulman, je suis devenu chrétien. Donc si je suis devenu chrétien, c'est parce que je considère et je crois que la vérité, que le Jésus qui peut sauver, c'est Jésus de l'Évangile. Et je vais aller encore plus loin parce que je suis dans mon église et je le parle aussi en tant que chrétien, en tant que pasteur chrétien, sans aucune ambiguïté à cet égard. Je crois que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. » Et c'est fini. La parole que Dieu avait à transmettre à l'humanité l'a dite dans le Fils. Voilà, j'espère que je réponds assez à vos craintes ou à vos interrogations. Oui. J'ai pas compris. Est-ce que Jésus? Oui? Non. Non, il n'a pas pardonné. En tout cas, dans le Coran, Jésus n'a pas pardonné les péchés. Ça n'a pas été dit explicitement. Mais par contre, il est dit que Jésus a ressuscité les morts, etc. Parce que pardonner les péchés, dans le Coran, comme d'ailleurs dans le judaïsme ancien, c'est une œuvre qui appartient à Dieu et à Dieu seul. Voilà. Or, dans le Coran, on ne retrouve pas ça. Florian. Très juste, merci. Pour moi, il me semble qu'il faut vraiment, il y a une certaine honnêteté spirituelle et intellectuelle que notre Seigneur nous demande en tant que chrétien. Donc quand on discute avec un musulman, on ne peut pas dire « il est écrit dans la Bible ». Lui, il va dire « mais moi, ça ne m'intéresse pas ce qui est écrit dans la Bible, surtout que je crois que tous les éléments, les vrais éléments de la Bible sont repris dans le Coran. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit dans le Coran ». Et c'est la raison pour laquelle, il me semble, lorsqu'on discute, il faut aider nos amis musulmans à faire un pas de plus, et nous à faire un pas de plus, c'est-à-dire à quitter notre rôle, à ne pas nous enfermer, accepter d'aller sur le terrain de l'autre. Le chrétien doit accepter d'aller sur le terrain de l'autre et de considérer ce que le musulman considère comme parole de Dieu, de tenir compte Et le fait de tenir compte, le fait d'accepter que le musulman considère que le Coran est parole de Dieu, ne fait pas de nous des gens qui croient que la parole de Dieu est que le Coran est parole de Dieu. Donc, faire l'effort de dire, voilà, je veux discuter avec quelqu'un, je veux tenir compte de ce qu'il croit. Et le musulman va avoir la même démarche à notre égard. Donc, il va tenir compte du fait que l'évangile, pour nous, est parole de Dieu. Donc, il va tenir compte du fait que nous croyons que la parole de Dieu, l'évangile est parole de Dieu. Donc, il ne peut pas nous balancer un peu au visage le fait que, de toute manière, la Bible est falsifiée. Si on veut discuter, non, on ne peut pas discuter sur cette base-là. Donc, lui, il respecte la parole de Dieu, que notre parole de Dieu, ce qu'on considère comme parole de Dieu, et nous, nous devons respecter ce qu'il considère comme parole de Dieu. Vous savez, ce procédé a été aussi élaboré par l'apôtre Paul. Dans Actes 17, l'apôtre Paul n'a pas hésité, lorsqu'il parle avec les Juifs, il citait l'Ancien Testament, mais lorsqu'il parlait avec les Grecs, il citait à Athènes, il citait les philosophes. Il n'a eu aucun problème de citer les philosophes, et après de conduire le raisonnement jusqu'à parler de Dieu tel qu'il est révélé dans l'Évangile, c'est-à-dire ce qu'il croit lui au plus profond de lui-même. Parce qu'un dialogue vrai et sincère, un dialogue respectueux n'exclut pas, ne doit pas exclure un dialogue vrai. Donc il faut dire après arriver à dire ce que nous pensons vraiment. Mais pour dire ce que nous pensons vraiment, nous devons prendre le temps d'écouter, de comprendre ce que l'autre pense. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a une exigence à quitter, ou en tout cas à considérer, à tenir compte très sincèrement et très sérieusement ce que l'autre pense. Et là, franchement, je le dis, nous sommes entre chrétiens en tout cas pour la plupart, souvent nous péchons un peu à cet endroit-là. Nous arrivons avec nos certitudes et nous faisons aucune place, nous ne prenons pas du tout le temps de comprendre la pensée, notamment des musulmans ou de l'islam, et on tombe trop facilement dans la caricature, on les caricature. Et ça, je ne crois pas du tout que ça honore notre Seigneur. On devient victime des médias, de tout ce qui se dit dans la presse, mais je ne suis pas du tout sûr que ça honore notre Seigneur. Le Seigneur, lui, n'a jamais caricaturé les pharisiens, les sadduciens. Lorsqu'il devait discuter avec eux, il discute théologie, et il prend le temps, il a compris ce qu'il pense, et il répond à ce qu'il pense, et non pas à la caricature de leur pensée. Et je pense que c'est cela aussi que le Seigneur nous demande, à mon sens. Thierry ? Voilà, tout à fait. Je pense l'une des clés, moi je suis frappé par l'attitude de l'apôtre Pierre dans Matthieu 16. L'apôtre Pierre, il dit, tu es le Seigneur, le Fils de Dieu vivant. Et là Jésus lui dit, tu as très bien compris, c'est le Père qui t'a révélé cela. Et juste après, Jésus lui a dit, puisque tu as compris que je suis vraiment le Messie, eh bien je vais aller à la croix. Et Pierre lui dit, mais non Seigneur, c'est pas possible, tu ne vas pas y aller à la croix. Pierre, à vrai dire, il a eu la même attitude que les musulmans ont eu 7 siècles après. Les musulmans rejettent la croix parce qu'ils considèrent que la croix est une défaite. Il me semble que nous devons faire comprendre à nos amis musulmans que la croix, ce n'est pas du tout une défaite. Et ça, nous avons beaucoup de textes qui le disent dans le Nouveau Testament, leur faire comprendre dans la logique de l'Évangile, la croix n'a jamais été une défaite, au contraire, c'est là où Dieu a emporté la victoire définitive et la vraie victoire, c'est pas la vraie victoire sur le péché et sur le mal, et c'est là que la nouvelle fondation est fondée. Après, c'est vrai que, maintenant j'irai un peu plus loin, vous savez, je vous ai parlé du... malheureusement, je n'ai plus la référence ici, je pensais que j'avais la référence. Dans ce livre, j'ai fait exprès cette photo, c'est moi qui l'ai faite, parce qu'il y a un verset qui laisse entendre que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et dans le débat que j'ai eu avec M. Aubrou lundi dernier, il m'a dit que pour lui, la Bible n'est pas du tout falsifiée, l'Évangile n'est pas falsifié, mais c'est le sens, c'est l'interprétation qui est falsifiée. Ce que j'ai souligné avec vraiment force lors de débat, et d'ailleurs je l'ai remercié parce que pour une telle position publique, ça m'a vraiment surpris. J'ai jamais entendu un musulman d'une autorité spirituelle et même politique à ce point prendre de tels propos publiquement. Et après je lui ai dit, mais comment ça pose problème sur des points fondamentaux, notamment la crucifixion de Jésus, sa résurrection. Et là, il m'a cité ce passage. Il m'a dit, mais vous savez, il y a une lecture quand même qui peut laisser entendre que Jésus soit mort et qu'il est élevé au ciel. Le plus important, c'est qu'il va revenir aussi. Donc, il faut savoir qu'il y a une branche des musulmans, mais franchement, il faut être sincère et honnête, elle n'est pas majoritaire, qui peut admettre que Jésus soit mort. Après, il me semble que dans le dialogue, ce qui sera pertinent, c'est de montrer la raison de cette mort de Jésus et en quoi elle est spécifique, en quoi elle est fondamentale, en quoi elle est une victoire, etc. Mais voilà, les deux pistes un petit peu que je pourrais, je pense, envisager. Oui, oui, ils reprennent presque, il y a un des titres qu'ils reprennent, c'est le paradis. Et le paradis, c'est exactement le même titre qui est employé dans l'évangile. Ce n'est pas les deux. Donc pour eux, ils ne parlent pas de la vie éternelle d'ailleurs, ils parlent du paradis. Mais après, le contenu, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour nous, par exemple, je mettrai juste une différence comme je n'ai pas abordé le sujet. Dans la perspective chrétienne, si aujourd'hui Dieu nous dit certaines choses sont marquées par le mal, par le péché, etc., comme par exemple tout ce qui est en lien avec la débauche, ce n'est pas pour les retrouver dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Au contraire, dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il n'y aura même pas la possibilité de pécher, c'est-à-dire d'attrister le cœur de Dieu, ce qui est vraiment une source d'espérance et de joie. Mais dans la conception musulmane, certaines choses interdites, notamment la débauche ici-bas, sont un test. C'est-à-dire, si vous réussissez ici le test de ne pas vous droguer, enfin, peut-être pas la drogue, mais de ne pas boire de l'alcool, je prends un exemple qui est utilisé directement dans le Coran, c'est l'alcool. Si vous arrivez à ne pas boire de l'alcool ici-bas, eh ben, dans le paradis, selon l'islam, vous aurez des fleuves de vin, et de bon vin à boire autant que vous voulez. Je vais prendre une autre question si vous voulez bien, et après s'il n'y a pas d'autres questions, je répondrai. Mais enfin, la mort, je dis un mot. La mort, c'est juste, c'est la fin quand les gens meurent, c'est la fin de la vie terrestre. Il y a l'âme qui restera en attente dans un lieu où elle attendra le jugement dernier. Elle est dans un sommeil, ce que le Coran appelle le sommeil profond en vue du jugement dernier. Voilà. Une autre question? Oui, Ginette? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'amour du prochain? Les musulmans, que pensent-ils de l'amour du prochain? La mort ou l'amour? L'amour, oui. Ah oui, voilà, c'est ça, l'amour du prochain. Excusez-moi, peut-être que je suis un peu fatigué et je prononce mal, excusez-moi. Voilà, donc c'est ça que j'ai compris, c'est l'amour du prochain. Vous savez, il y a par exemple toute la question de l'hospitalité, de la générosité des musulmans, elles sont vraiment très connues. Et parfois, on peut se sentir très petit. Je vous dis, nous avons, c'est vrai, le vocabulaire, nous parlons de l'amour du prochain. Jésus a placé cela au centre de la prédication de l'Évangile et nous avons raison de parler beaucoup. Mais j'espère qu'on ne compense pas autant que chrétiens les actes par le discours. J'ai l'impression parfois, en tous les cas, moi je suis surpris, je côtoie les musulmans, j'ai de la famille et je vais les voir encore à partir de ce soir. Et oui, parfois je suis surpris de leur amour, de l'attention qu'ils peuvent avoir à l'égard des autres, etc. Après, il y a un amour pour la communauté, mais il y a aussi un amour, par exemple, pour l'étranger, pour quelqu'un qui passe de passage. Et il y a des générosités, mais je vous dis, parfois je me sens petit. Très franchement. Après, du point de vue doctrinal, je ne vois pas fondamentalement de la différence parce qu'il dit qu'il faut aimer aussi les autres comme on s'aime soi-même. Faites aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. C'est des choses qui sont reprises texto dans le Coran. Ils sont reprises, mais ils sont reprises de l'Évangile. Donc. Oui, peut-être une dernière question parce que l'heure passe, mais j'ai vu qu'il y a deux qui veulent poser des questions. Vas-y, madame. Après, je. Quelle différence entre islam et musulmans? C'est exactement entre la différence qu'il y a entre les chrétiens et le christianisme. Non, je plaisante. Donc, l'islam, c'est la religion des musulmans. Voilà. Voilà. Les musulmans croient à une religion qui est l'islam. Qui d'autre qui veut me poser une question? C'est vous? Allez. le Coran comme une Bible, comme parole de Dieu. C'est ça ce que vous voulez dire quand vous dites une Bible. D'accord. Les musulmans considèrent que le Coran, non pas une Bible, mais considèrent que le Coran est parole de Dieu, de la même manière que les chrétiens considèrent que la Bible est parole de Dieu. Maintenant, est-ce que les musulmans considèrent la Bible comme parole de Dieu? Oui, mais avec des exceptions. Est-ce que les chrétiens considèrent le Coran comme parole de Dieu? Non. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis bonne continuation.